féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Inondations, sécheresses, déplacements massifs, famine, épidémies, violences armées, pauvreté chronique, c'est ce que vivent encore des millions de personnes en Afrique, épicentre de l'action humanitaire mondiale. En 2023, la planète enregistrait près de 76 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont plus de 15 millions dans seulement deux pays africains, le Soudan et la République démocratique du Congo, où les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter. Dans cette édition spéciale, des femmes leaders de la société civile exposent les priorités de l'action humanitaire en Afrique, notamment au Mali, au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun et en République démocratique du Congo.
Je suis Solange Mafuta. Pour ma part, en tant que présidente de l'association Télémache, je déplore le silence qu'il y a autour des conflits à l'ouest de la RDC, où des milliers de familles fuient les Mobondo pour s'installer à Kikwit. Et Kikwit est devenu, à ce jour, un grand orphelinat à ciel ouvert qui accueille des sinistrés, des déplacés de partout. Et ça a commencé depuis le conflit Kamuina-Sapu, où l'État n'a pas agi, où les organismes internationaux, je pense, n'ont pas trop bien compris ce qui s'est passé. Alors ce que nous faisons, nous, en tant qu'association locale et Téléma, donc on récolte des fonds, des vivres, ce qui est très difficile dans un pays en crise comme le nôtre, pour secourir les enfants, pour venir en aide aux enfants. Et ces personnes n'ont jamais reçu ne fût-ce qu'une seule tente pour se mettre à l'abri. Alors, la RDC, il faut le savoir, est le pays qui reçoit le moins de subventions au monde pour pallier au problème des déplacés et des réfugiés. Alors que nous vivons une crise connue de tous et qui perdure depuis des décennies. Nous sommes devant un paradoxe que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Donc, je profite de cette occasion pour informer le monde que dans le Bandundu aussi, on a besoin d'aide. Il y a des viols aussi, il y a des tueries aussi. Et si nous ne voulons pas que le nombre de sinistrés atteigne celui de l'Est de la RDC, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut agir avec les associations locales. Ces associations connaissent le problème parce qu'ils sont sur place et peuvent apporter des solutions adéquates. C'est toujours mieux de trouver des solutions à la cause au lieu de gérer les conséquences.
Je suis Constance Gounibana, je suis consultante de genre, je suis également experte nationale en environnement, changement climatique et développement durable. Je suis enseignante vacataire à l'université de Bangui et je vous appelle justement de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Je ne travaille pas directement dans l'aide humanitaire, mais je contribue en fait à travers mon expertise à mettre en place des politiques et des stratégies qui prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et des groupes vulnérables dans les camps de déplacés, mais également pour prévenir les violences basées sur le genre. En Centrafrique, les crises récurrentes ont fait exploser les besoins d'aide humanitaire. D'après le plan de réponse humanitaire récent de OCHA, environ 3 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. La RCA également compte un nombre élevé de personnes déplacées internes, dont la majorité vit en famille d'accueil, soit 82%, et le reste étant hébergé sur des sites spécifiques. Ces déplacements massifs étant liés aux différentes crises, mais également aux catastrophes naturelles, notamment les inondations. Alors en termes de solutions, aujourd'hui avec la stabilisation de la situation sécuritaire, il est question de changer de paradigme, car l'accent a été longtemps mis sur la réponse humanitaire. Et désormais, l'enjeu est d'aller vers un développement soutenu, durable et porteur d'une transformation structurelle de l'économie à travers le plan national de développement de la République centrafricaine 2024-2028 qui est en cours d'élaboration actuellement.
je suis Sandrine Lusamba, je suis coordinatrice nationale de l'ONG Sofepadi et je suis aussi représentante des organisations nationales féminines à l'équipe humanitaire pays. Je souhaite rappeler ici l'importance cruciale de notre rôle en tant que humanitaire, de rôle que jouent nos organisations au niveau de la base. Avant même que les grands programmes puissent arriver, nos organisations locales s'élèvent quand il y a des crises pour commencer de l'assistance, même sans grands moyens, parce que nous sommes proches de la population. C'est aussi important de rappeler ici que la situation critique des crises humanitaires qui traversent notre pays plonge beaucoup de populations, beaucoup de personnes dans les besoins humanitaires. Ces besoins doivent être couverts parce que ces personnes se sont déplacées plusieurs fois. Ils ont tout laissé derrière elles et doivent être assistées avec dignité. C'est aussi l'opportunité de demander la protection de tous ces acteurs humanitaires. Nous avons eu beaucoup de cas en RDC où les convois humanitaires, les acteurs humanitaires, nos collègues ont été attaqués, attaqués par des groupes armés, attaqués par des milices. Il faudra donc que cela s'arrête pour que l'aide humanitaire puisse atteindre tout le monde là où elle se trouve. Aujourd'hui, nous avons des zones qui ne sont pas accessibles et ces personnes n'ont pas accès à l'aide humanitaire parce que seulement il y a des groupes armés qui ont occupé la zone et qui ne laissent pas passer les humanitaires. C'est aussi l'opportunité pour moi de rappeler que la crise en RDC demande encore plus et plus d'attention. La crise, elle est au niveau où elle est. Mais là, c'est la population civile qui en souffre, c'est les femmes, c'est les enfants qui sont dans des besoins humanitaires très élevés. Il n'y a pas assez de financement. Il n'y a pas assez de financement pour couvrir tous les besoins. C'est aussi l'opportunité pour moi d'appeler tout le monde avec le cœur, ces cœurs que nous avons d'humanitaire, de pouvoir continuer à nous sacrifier avec le moyen de bord, continuer à mobiliser le fonds pour que nos frères, nos sœurs, nos enfants aujourd'hui qui sont dans les rues de Goma, dans les rues de Lituri, dans les rues au sud Kivu, au Tanganyika, dans les rues de Kwamout, partout là où la crise est en train de ravager, pour que ces personnes soient assistées avec dignité.
Faïda Mungilwa, je suis consultante genre. S'il faut répondre à la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation de la crise humanitaire à travers le monde et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, nous disons qu'il y a des meilleures façons de construire rapidement la paix dans nos États respectifs et dans notre région d'Afrique parce que la situation est catastrophique. C'est chaque jour que nous comptons des milliers de populations déplacées fuyant les hostilités et des besoins sont immenses en termes humanitaires. Je crois qu'il y a lieu franchement de voir dans quelle mesure construire, investir dans la paix, instaurer un climat de confiance entre États, travailler pour des solutions durables parce que le meilleur des choses à donner à un peuple, c'est la justice. C'est la justice qu'on donne à un peuple lorsque nous travaillons pour lutter contre les inégalités, contre les injustices, contre la mauvaise gouvernance et contre la haine. Tout ce qui trouble la quiétude au sein de nos populations, là, nous sommes en train de trouver des solutions durables à la crise humanitaire. On ne peut pas de toutes les façons continuer à vivre des situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y a moyen de donner à des nouvelles générations un monde nouveau. Au monde où règne la paix et la justice, ça ne sera pas un monde sans problème, mais un monde où les droits des uns des autres sont respectés. Il faut inculquer la culture de la paix au niveau de nos enfants. Par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, on doit y travailler pour y mettre fin à des conflits armés, mettre fin à des conflits entre populations, mettre fin à des crises politiques, construire un monde de justice, un monde où la primauté de toutes choses demeurera au niveau de la justice. Il est question, franchement, de mobiliser davantage sur la paix qu'il faut construire à travers le monde. Nous devons avoir des réflexions sans passion, des réflexions ouvertes, construire la confiance entre États, construire la confiance entre des dirigeants, construire la confiance entre la population et lutter contre la pauvreté. Parce qu'il y a aussi des zones qui ne connaissent pas des conflits, mais qui vivent dans une situation d'extrême pauvreté et qui conduisent à des situations humanitaires catastrophiques. Donc, il est temps de travailler, de s'arrêter et dire plus jamais ça, plus jamais des conflits entre des citoyens, entre des États, plus jamais de continuer à entretenir des rébellions, continuer à entretenir des groupes armés, plus jamais. Nous avons besoin de construire un monde meilleur où chaque citoyen se sent libre de travailler pour sa famille, pour lui-même, pour sa communauté, afin que les choses changent. Ça doit nous interpeller. Il faut beaucoup plus de réflexion. Soyons des personnes qui travaillent pour le bien des autres, qui donnent le sourire à d'autres personnes qui vivent des souffrances atroces à cause des problèmes qui sont autour d'eux.
Je suis la présidente de l'association Guidant des femmes du Mali. Je suis de la région de Ménaka. Les activités qu'on a l'habitude de faire, c'est des rencontres entre les communautés vraiment pour essayer de sensibiliser les hommes à déposer les armes et puis à se parler entre eux. Parce que les hommes, là, ne régulent rien. Donc nous, vraiment, on ne veut plus entendre du comportement des hommes. Il faut que les hommes s'expriment sans violence, sans prendre des armes. Prendre les armes, ce n'est pas une solution. La violence n'est pas une solution pour un pays. Un pays qui est complètement en guerre ne peut rien réaliser. La population souffre, le pays souffre. Donc vraiment notre sujet aujourd'hui est reprendre les dialogues. Vraiment la cohésion sociale, ils ont beaucoup parlé de la cohésion sociale. Cette cohésion sociale qui nous manque, ils ont demandé de dialoguer avec tout le monde. Bon, on attend ce dialogue-là. Et tout ça, on fait la paix entre les Maliens. Il faut essayer vraiment de se parler. La guerre ne va rien servir. Ça n'a fait que détruire le pays.
Je suis Alimatou Diallo, entrepreneur et promotrice des technologies innovantes de toilettes en Guinée, membre de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. Comme beaucoup d'autres pays en développement, la Guinée fait face à de nombreux défis humanitaires. Parmi ces défis, nous avons l'accès à l'eau potable, aux installations sanitaires de base et à des services d'hygiène adéquats. Ces éléments sont essentiels pour garantir la santé et la dignité des populations. Mais malheureusement, de nombreuses communautés en Guinée manquent encore de ces services fondamentaux. L'absence d'installations sanitaires adéquates entraîne des conséquences graves, notamment la propagation des maladies hydriques comme le choléra, la dysenterie et les infections parasitaires. Ces maladies affectent particulièrement les enfants, les femmes et les personnes vulnérables, réduisant leur qualité de vie et leur espérance de vie. Pour remédier à ces problèmes, il est crucial de promouvoir des pratiques d'assainissement durable et de sensibiliser les populations à l'importance de l'hygiène. Ensemble, nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos communautés et construire un avenir plus sain et plus durable.
Je me nomme Bimbe Ipe Ebenye Catherine, juriste domicilié à Yaoundé au Cameroun. J'aimerais soulever le besoin d'aide humanitaire dans mon pays, le Cameroun, notamment dans la région du Nord-Ouest, qui a fait des milliers de déplacés à travers d'autres régions, pour certains et pour d'autres, qui se sont vus être armés de courage pour l'affronter, n'étant pas tout de même à l'abri du besoin. Ceux-ci se sont vus être exposés à la famine, à la malnutrition, privés de logement, d'emploi et d'éducation. Donc les priorités ici seront de les mettre à l'abri tout en pourvoyant des logements, des vêtements, de la nutrition pour un début. Répondre de manière efficiente reviendra à leur apporter de l'amour, du sourire, de l'espoir de par un don quelconque.
Madame Combe-Thérèse de l'Association des femmes juristes du Tchad. Je voudrais donner une petite réflexion par rapport à la question de crise humanitaire et de l'appui humanitaire qui se passe que ce soit dans le monde ou bien dans nos pays africains. Pour ce qui est de nos régions au niveau de l'Afrique, je crois qu'il y a beaucoup d'appui humanitaire qui se font, mais je crois que c'est beaucoup plus des solutions qui sont trouvées. Mais on ne cherche pas à solutionner les causes de ces conflits qui sont à l'origine de ces crises humanitaires. Nous avons également la pauvreté, nous avons l'insuffisance alimentaire également qui font que les populations se déplacent d'un pays à un autre, d'une région à un autre, d'un continent à un autre pour chercher le mieux vivre, pour chercher à avoir également, à trouver une sécurité personnelle, une sécurité sociale. Et dans ce sens-là, nous nous retrouvons avec une crise humanitaire qui s'agrandit et qui va crescendo. Et comme je l'ai dit, je pense que mieux vaut chercher les causes profondes et solutionner ces causes-là que chaque fois de venir avec des aides humanitaires. Ces aides humanitaires ne vont pas continuer. Il y aura un moment où ces aides-là vont s'arrêter et que deviendront ces populations-là qui sont quelquefois des déplacés, des réfugiés et même quelquefois des autochtones et qui vivent également dans une crise alimentaire quand les pays n'ont pas les moyens de venir en aide à ces populations. C'est beaucoup plus les ONG au niveau international qui soutiennent ces populations. Et ce qui fait que ces ONG-là continuent, même quand ils viennent pour une période donnée, on se rend compte qu'ils sont obligés de rester plus longtemps parce qu'on n'arrive pas à solutionner la crise humanitaire. Les besoins sont énormes, les besoins en appui pour les populations, les besoins en aliments, les besoins en médicaments, les besoins des premières nécessités sont tellement énormes que ces appuis-là sont nécessaires. Mais combien de temps nous continuerons à avoir ces appuis? Et donc, moi, je pense qu'une réflexion doit être menée à tous les niveaux, que ce soit au niveau des gouvernants ou au niveau des ONG qui appuient ces gouvernements ou bien ces pays pendant ces crises humanitaires. Et tout le monde doit également réfléchir pour voir quelles sont les causes profondes et comment faire en sorte que ces causes-là puissent trouver une solution durable. C'est à ce moment-là, à ce niveau-là seulement, qu'on pourra stomper les appuis humanitaires des ONG et également, même si appui il y a, que ces appuis-là ne puissent pas perdurer dans nos pays. Et donc, moi, je pense qu'une réflexion doit être menée profondément pour pouvoir trouver une solution afin que nous ne continuions pas à voir nos populations errer, quelquefois dans le désert, dans les forêts, dans des territoires qui, au lieu d'être un refuge pour eux, deviennent même un danger, une insécurité pour ces populations-là.
Pour la cohésion sociale au Mali. L'humanitaire, ça doit être notre quotidien. Être là les uns pour les autres doit être un fait naturel pour chacun de nous. Lorsqu'on me demandait d'organiser les rencontres préliminaires entre les différents protagonistes dans le cercle de Nyono, plus précisément dans la commune de Segoulon, le village de Farabougou, Kourkambou, Koumbé et j'en passe. Maintenant, lorsqu'on m'avait demandé cela, à la fin de la rencontre, je me suis rendu compte que ces villageois avaient plus besoin des céréales. Ils avaient vraiment besoin des céréales. L'État avait fait son mieux en envoyant une centaine de sacs de mille pour les villageois de Farabougou. Mais les villageois de Farabougou n'étant pas les seuls à vivre sous l'effet des conflits, la commune de Segoulon a jugé nécessaire à partager ça entre tous les villages de la commune. Et ce qui a fait que les céréales ont été vite finies. Mais ils en avaient besoin. Ils étaient vraiment en besoin parce que en ce moment, on ne pouvait même pas cultiver. Lorsqu'ils m'ont dit cela, moi, je me suis vue comme un trait d'union entre cette population de base et l'État. Directement, j'ai saisi le ministère à travers son chef de cabinet, son ancien chef de cabinet, Marcel Ndiangéré. Donc, il a même dépêché une équipe à laquelle je faisais partie. On a mené notre petite enquête. On a vu qu'effectivement, il y avait des problèmes. Et plus tard, ils ont envoyé 20 kilos aux villageois de Farabougou. Donc moi, je vois en nous, membres de la société civile, membres des associations, pas directement comme des humanitaires, mais des traits d'union aussi entre l'État et la population, des traits d'union entre l'État et les organismes non gouvernementaux. Je me rappelle aussi, dans la même année en 2021, lorsque j'ai reçu un kit sanitaire de l'ancien chef de cabinet du ministère de la Santé, M. Bouaka Soumaré, je me suis rendue dans le jardin d'enfants du camp 1 de Bamako et j'ai offert des kits sanitaires là-bas parce que c'était la période du Covid. Je vous avoue que la directrice, elle était émerveillée. Linaha, nous qui sommes là en train de garder ces petits anges, je vous assure qu'on a été oubliés. Et c'est grâce à vous que nous pourrons vraiment avoir ces kits-là pour pouvoir protéger ces enfants. Donc, vous voyez, nous sommes là où l'État peut oublier d'être. Donc, nous sommes non seulement un trait d'union, mais dans notre travail quotidien, nous sommes des humanitaires dans la vie de tous les jours. Moi, je me dis quelque part que si vous voyez aussi que les projets qui viennent en Afrique ne marchent pas, c'est parce que ces projets, on amène en Afrique un projet déjà fini. On ne fait pas une enquête de terrain. On n'amène pas des projets qui vont avec les réalités africaines. Imaginez quand on amène un projet de forage, par exemple, à Bamako, alors que vous verrez que c'est à Tiembougou, dans la commune de Fatina, dans le secteur de Djuro, la région de Ségou, qui a besoin de ce forage. Le forage quand même a été fait à Bamako, mais est-ce qu'il est nécessaire à Bamako? Souvent, c'est ce que nos partenaires techniques et financiers ne se posent pas comme question. Ils amènent un projet déjà fini et nous demandent d'exécuter les projets selon ce qu'eux-mêmes disent, selon leurs normes, alors que chaque pays a ses réalités.
Je suis Rabia Tombama, ingénieure forestière et présidente fondatrice de la Cameroon Forest and Environment Network. Au Cameroun, nos besoins en aide humanitaire est très important au vu des multiples conflits armés auxquels le pays est confronté. Mais si ces conflits sont bien connus avec des belligérants identifiés, il n'en est pas de même avec les catastrophes naturelles. En fait, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Elles sont comme des ennemis invisibles dont on ne peut prévoir les coups et qui touchent de plein fouet une couche très vulnérable de la population, à savoir les enfants. D'ailleurs, l'UNICEF a montré à travers l'indice de risque climatique pour les enfants que les enfants camerounais sont les 10e les plus à risque sur un total de 163 pays classés. En quelques mois, le Cameroun a enregistré de nombreuses inondations, glissements de terrain, éboulements qui ont à chaque fois entraîné de grosses pertes matérielles et humaines et accentué le besoin des enfants du Cameroun en aide pour l'éducation, la santé et même la nutrition, particulièrement ceux du septentrion. Pour une aide humanitaire efficace, il faudrait d'abord alléger les procédures d'accès aux fonds pour la finance climatique, afin que les États puissent renforcer leurs mécanismes d'adaptation à travers des systèmes d'alerte précoce pour anticiper certains faits, limiter leurs impacts et réduire notre dépendance à l'aide humanitaire. Il faudrait un véritable mécanisme de coordination de cette aide afin que les fonds déjà insuffisants consacrés pour l'aide humanitaire puissent être utilisés de manière efficiente avec des priorités bien identifiées de manière inclusive et participative. Il faudrait aussi des mécanismes efficaces de suivi de la durabilité des réponses humanitaires pour s'assurer à terme que les causes qui ont conduit à l'urgence humanitaire ou à la crise humanitaire sont éliminées, voire atténuées. Ce qui est certain, c'est que pour permettre à tout être de vivre en sécurité et de s'autosuffire, il faut qu'on s'engage tous à agir pour l'humanité avec humanité.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!